Chapitre 6. Pour la beauté du geste. Les arts plastiques. Dans ce chapitre, nous aborderons les grands mouvements picturaux et la sculpture à travers les âges. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle beaux-arts. Depuis que l'homme a saisi un outil pour orner la paroi d'une grotte, sculpter dans la pierre ou le marbre un visage familier ou élever un monument à la gloire d'une divinité, la peinture, la sculpture et l'architecture éblouissent notre regard et éclairent notre vie, la rendent plus belle et plus chatoyante. Peinture et sculpture font ici l'objet d'un traitement succinct par la force des choses, mais particulier. L'architecture, elle, sera traitée à part dans le chapitre suivant. Ouvrez grand les oreilles, le voyage commence. La peinture à travers les âges. L'histoire de la peinture se découpe en plusieurs mouvements artistiques. Parcourons l'humanisme de la Renaissance, le baroque et le classicisme du XVIIe siècle, l'impressionnisme et l'académisme du XIXe, le cubisme, le surréalisme, le fauvisme du début du XXe, pour aboutir, après les années 1950, au pop art et à l'hyperréalisme. La peinture de la préhistoire. Les plus anciennes peintures sont celles qui nous sont parvenues intactes dans les grottes du sud-ouest en France, en Espagne et dans d'autres parties du monde à des dates différentes. C'est un fait, l'homme a eu besoin de matérialiser ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait. Les peintures d'Arcy-sur-Cure en France ont été datées de 30 000 ans. Celles de la grotte Chauvet de 32 000 ans environ. Le nombre des animaux peints dépasse 400. Lascaux est devenu depuis longtemps la chapelle Sixtine de la préhistoire. Les peintures rupestres du Sahara, du Tassili, d'époque néolithique et post-néolithique, montrent que ce phénomène s'est partout produit. La peinture antique. La peinture est un art très en faveur pendant toute l'Antiquité, et ce, partout dans le monde. Concentrons-nous sur la splendeur de l'Égypte, puis sur la peinture grecque et romaine. La peinture égyptienne. L'iconographie égyptienne puise ses sources d'inspiration dans la vie quotidienne, mais elle subit les conventions imposées par le dessin. Les figures humaines ou animales, avant d'être peintes, sont toujours dessinées en fonction de normes bien établies. La tête, les bras, les jambes des personnages sont vus de profil, tandis que les yeux et le torse sont figurés de face. L'échelle de représentation varie selon l'importance des personnages. Pharaon doit être immense car sa taille reflète son statut divin.
Le saviez-vous ? Un bon profil. Vous vous êtes probablement demandé pourquoi les artistes égyptiens représentent les personnages de profil. On a supposé un manque de maîtrise technique des artistes, alors qu'il s'agit d'un choix intellectuel. L'artiste égyptien représente non ce qu'il voit, mais ce qui est essentiel et caractéristique à ses yeux. Ainsi, dans un visage, le regard. Le visage sera peint de profil, car il est reconnaissable, mais l'œil de face, grand ouvert. Même chose pour le torse, figuré de face pour que l'on puisse voir les deux épaules. En revanche, les seins, peu visibles de face, sont représentés de profil et pendant. Les hanches sont de trois quarts et les jambes de profil, bien écartées, pour être vues toutes les deux. Longtemps avant le cubisme, les Égyptiens peignent ce qui est signifiant, quitte à dessiner une silhouette totalement impossible dans la réalité.
La peinture égyptienne est étroitement liée au rituel funéraire. Situé dans la région de Memphis, près du Caire actuel, les complexes funéraires royaux de Saqqara et de Gizeh, les mastabas, banquettes en arabe de l'ancien empire, comportent les plus belles peintures. Ainsi, à Saqqara, ceux de Ti, de Ptahotep, 5e dynastie, ceux de Mereruka, 6e dynastie. Les multiples aspects de la vie quotidienne, repas, chasse, pêche, scènes de boucherie, banquets, thèmes agricoles, parmi des scènes d'offrande et de culte, constituent les principales représentations. La finalité est de reproduire pour le mort tout ce qu'il a eu dans la vie matérielle, afin qu'il puisse aussi en bénéficier dans l'au-delà. Mais c'est dans les tombes du Nouvel Empire que la peinture atteint son point culminant. On parlera même de maniérisme devant la longueur disproportionnée des doigts des personnages. L'apparition d'éléments biographiques renseignant sur la vie du personnage figuré sont la nouveauté de cette période. Ainsi, dans la tombe d'Horemheb, une grande place est faite à sa carrière militaire. La peinture gréco-romaine. La découverte de fresques en Italie, en Asie mineure ou en Macédoine permet de mieux connaître ce que fut la peinture de la Grèce depuis sa période archaïque jusqu'au classique. Mais qui inventa l'art pictural? Pour le savoir, les Grecs s'appuyèrent sur la logique du mythe selon lequel la peinture ne fut d'abord qu'un simple dessin. Les silhouettes dessinées n'auraient été coloriées qu'après. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Pline, dans son Histoire naturelle, fait ainsi du potier Bouladès de Sicyone le premier qui découvrit l'art de modeler des portraits en argile. Les peintures archaïques. C'est en Asie mineure et dans le sud de l'Italie que furent retrouvées les tombes lyciennes de Kizibelle et celles du plongeur à Paestrum. Elles présentent les mêmes caractéristiques composées d'aplats de couleurs se détachant sur fond blanc. Les figures sont entourées par un trait noir. La tombe de Kizibelle, construite en 525 avant Jésus-Christ, représente des scènes mythologiques et des scènes de banquet. La tombe du plongeur, qui date de 480 avant Jésus-Christ, témoigne, elle, d'une certaine recherche psychologique. Depuis l'époque archaïque jusqu'au VIe siècle, la peinture se réduit à quelques dessins dépourvus d'aspect tridimensionnel. La peinture murale peut être comparée à celle figurant sur la céramique, aux dessins ciselés, marqués par une absence de représentation spatiale. Polygnote de Tassos, dans la seconde moitié du Ve siècle, est le peintre des grandes compositions sur panneaux de bois accrochés au mur. Il faut ajouter deux autres noms aux siens, celui de Mycone, du début du Ve siècle, et de Païnos, au Ve siècle, frère de Phidias. À la fin du Ve siècle, apparaissent des peintres comme Apollodore d'Athènes et Zeuxis, inventeur du clair-obscur. Nicomachos de Thèbes assoit sa réputation grâce à un enlèvement de Perséphone fameux dès l'Antiquité. Les peintures des rois de Macédoine. L'aristocratie macédonienne pratiquait l'ensevelissement dans des tombeaux recouverts d'un tumulus. Plusieurs tombes décorées en façade de fausses architectures ont été découvertes. Ainsi, à Lefkadia, la tombe dite du jugement dernier. Ces compositions évoquent celles de la villa de Boscoréal ou de la villa des Mystères à Pompéi, dans la province de Naples, en 50 avant Jésus-Christ. Pourtant, le nom le plus célèbre pour la qualité de ces peintures reste celui de Vergina, la plus ancienne capitale des rois de Macédoine. Les mosaïques et les peintures romaines, à partir du IIIe siècle, s'inspirent directement de ces modèles. Les peintures romaines. Jusqu'à la fin du IIe siècle, reprenant les techniques mises en pratique dans toute la Méditerranée hellénisée, les Romains utiliseront la technique du stuc moulé et peint qui imite la structure des murs. L'arrivée à Rome de certains peintres grecs, spécialisés dans les décors de théâtre, est à l'origine d'une nouvelle technique décorative, la peinture à fresque. Vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, les documents les plus intéressants proviennent de villas aux environs de Pompéi. Les décorations intérieures s'inspirent souvent de la statuaire, mais on retrouve aussi des fleurs, des animaux, des fruits. Certains thèmes sont parfaitement imaginaires ou rappellent les mythes. Persée délivrant Andromède à la maison des Dioscures. D'une qualité exceptionnelle, la Villa des Mystères nous livre les épisodes de l'initiation d'une jeune femme au mystère dionysiaque au 1er siècle avant Jésus-Christ. La peinture paléochrétienne. L'art des premiers chrétiens se développe à Rome et dans la péninsule italique essentiellement pendant les 4 premiers siècles de notre ère. Les premiers symboles chrétiens apparaissent dans les nécropoles que sont les catacombes, vastes cimetières souterrains. Les tombes les plus importantes sont décorées de fresques, de symboles tels le chrisme, les lettres grecques servant à écrire le nom du Christ, l'alpha ou l'oméga qui désigne Dieu comme le commencement et la fin de toute chose, ou encore le poisson, ichthyos, à rapprocher de Jesus Christos. Un des thèmes qui revient le plus fréquemment est celui du bon pasteur auprès de ses brebis. Il est aussi figuré sur les sarcophages avec la Vierge à l'enfant et le Christ Pantocrator, tout-puissant, largement exploité. La peinture médiévale. Le peintre de l'époque médiévale est le plus souvent artisan. Au service de Dieu, il enlumine les manuscrits dans les abbayes, peint les chapiteaux et les murs des chapelles et des églises. Plus rarement, en qualité de peintre de chevalet, il peut laisser un nom. Art sacré par excellence, la peinture médiévale reflète bien son époque, tournée vers la cité de Dieu plus que vers celle des hommes. Roman et pré-roman, du XIe au XIIIe siècle. La peinture romane est caractérisée par la grande variété de supports qu'elle utilise. Parchemin, bois, panneaux de bois, murs, enluminures qui impliquent différentes manières de peindre. La peinture à cette époque a plusieurs buts. Pas seulement décoratifs, comme sur les manuscrits, les enluminures ou les façades des édifices. Son but didactique est essentiel. Avec des lignes directrices, aucun décor n'est représenté et peu de détails sont figurés. Les relations entre les personnages ne sont pas suggérées, on préfère représenter ces derniers de face. L'héritage germanique se traduit aussi par un art abstrait, non figuratif, multipliant les entrelacs et les représentations stylisées de végétaux. La peinture de chevalet, du XIIIe au XIVe siècle. La peinture de chevalet se développe du XIIIe au XIVe siècle à l'occasion de la réalisation de retables ou panneaux de bois peints à plusieurs volets, représentant des scènes religieuses. Principaux sujets évoqués, la Vierge à l'enfant, la vie de saint François d'Assise ou les épisodes de la vie du Christ. Lorsque le retable comprend deux parties, on le nomme diptyque. S'il y en a trois, triptyque. En France, la peinture atteint son apogée sous le règne de Saint-Louis durant la seconde moitié du XIIIe siècle. Elle s'exprime principalement par des enluminures, par l'art d'enrichir, de représenter par de multiples couleurs. Les livres à l'époque sont de véritables trésors de rareté. Ainsi, les ouvrages de prière appartenant aux hauts personnages dits « livres d'heures » rythment l'année et indiquent les principales fêtes religieuses, ainsi que les prières appropriées à chaque heure du jour. Le chef-d'œuvre absolu reste les très riches heures du duc de Berry, illustrées par les frères de Limbourg pour le fastueux frère du roi Charles V au XIVe siècle. Deux figures émergent au XVe siècle, Jean Fouquet, infatigable propagandiste royal et miniaturiste au talent délicat, Enguerrand Carton, peintre du sacré dont l'œuvre influence les primitifs flamands, et la pré-Renaissance italienne, auteur de la Pietà de Villeneuve-les-Avignon. La peinture de la Renaissance. Souvent considérée comme l'âge d'or de la peinture, la Renaissance couvre la période allant du XIVe au XVIe siècle. Elle est associée en Italie à la découverte des sciences de l'Antiquité, de sa littérature et de ses arts. Mais c'est aussi en Europe un moment capital marqué par des découvertes géographiques importantes qui font reculer les frontières du monde. Ce mouvement artistique est donc lié à l'euphorie d'une reprise économique, démographique et à la mise en place de structures nouvelles. La Renaissance débute en Italie, plus précisément au nord, en Toscane, entre 1300 et 1400, et prend le nom de Trecento. Les artistes opèrent une transition entre l'art primitif byzantin et le style naturel de la peinture antique romaine. Certains historiens font débuter la Renaissance au XIIIe siècle avec Giotto di Bondone et Cimabue. D'autres attendent le début du XVe siècle. L'art s'exprime d'une façon nouvelle. On glisse d'une peinture de l'âme à une peinture de l'esprit. Tout va peu à peu s'ordonner autour de l'homme et de sa vision individuelle, et la peinture florentine est à la pointe de ce mouvement. Trois peintres s'imposent. Giotto est le père de la peinture moderne jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il introduit de grandes nouveautés, notamment la loi d'isocéphalie, qui réclame une hauteur commune pour la tête des personnages figurés. Le fond or traditionnel de la peinture byzantine est remplacé par un ciel bleu. Élève de Cimabue, la nouveauté qu'il introduit passe par quatre types de recherches. Le langage vif, utilisé dans l'art romain tardif, la miniature médiévale, la grande sculpture romane et enfin celle de Nicola Pisano. portant la tradition byzantine à sa capacité d'expression maximale, en se lançant dans une recherche innovatrice sur les formes et sur les couleurs. Voir la mosaïque du Saint-Jean de la cathédrale de Pise. Piero dei Franceschi, dit Piero della Francesca, 1420-1492, est né en Toscane et peint ses premières œuvres à Sienne, puis à Urbino. Le polyptyque de la Vierge de la Miséricorde, le baptême et la flagellation du Christ. Il se consacre à partir de 1452 à son œuvre majeure, la décoration de l'église Saint-François d'Arezzo autour du thème de la légende de la croix. Les dernières années du peintre sont assombries par la cécité totale dont il est frappé. Le Quattrocento, 15e siècle. Le Quattrocento marque les débuts de la première Renaissance avec des recherches sur la perspective, les proportions et la représentation de paysages. Florence devient la ville phare incontestée de la pensée artistique. À Florence. Florence est dirigée par la célèbre famille des Médicis. Leur richesse provient du commerce de la laine, mais leur puissance s'est assurée grâce aux banques et à la politique. La ville doit son rôle et son rayonnement à Laurent le Magnifique, 1449-1492, et à Côme de Médicis, 1389-1464. Dirigée par des familles princières, la plupart des villes italiennes rivalisent pour produire ce qu'il y a de plus beau afin d'exprimer leur puissance. À Ferrare, la famille Est, à Mantoue, les Gonzague. L'artiste devient une personnalité recherchée et encouragée par ses mécènes. Ainsi sont restés gravés les noms suivants. De son vrai nom Tommaso di Sei Giovanni di Monicassai, Masaccio, 1401-1428, adapte à l'héritage de Giotto l'enseignement de la nouvelle perspective et des techniques plus récentes, donnant par exemple à la figure humaine une représentation libérée. Il est l'auteur d'une partie des fresques de la chapelle du cardinal Brancacci dans l'église Santa Maria del Carmine à Florence. Fra Angelico, 1400-1455, est l'un des peintres florentins les plus célèbres du Quattrocento. De son vrai nom Guido di Pietro, il serait issu d'une famille plébéienne très aisée de la région de Florence. À l'âge de 20 ans, il revêt l'habit blanc et noir de frère prêcheur à Fiesole et peint un nombre important de retables, dont le triptyque de Saint-Pierre Martyr. En 1436, il réalise une grande lamentation pour la congrégation de Santa Maria della Croce. Il aborde la fresque pour la première fois au couvent de San Marco, représentant les principaux sujets du Nouveau Testament. Son art est empreint d'une suavité et d'une douceur infinie. Florentin de naissance, Sandro Botticelli, 1445-1510, né Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi, est issu d'un milieu modeste. Son travail avec des artisans influença beaucoup la ligne de son dessin. Appelé en 1481 par le pape Sixte IV à Rome, il réalise trois fresques pour la chapelle Sixtine. Les épreuves de Moïse, les épreuves du Christ, la punition de Corée. De retour à Florence, il peint la naissance de Vénus en 1484. Trouvant son inspiration dans les sujets mythologiques et allégoriques, il fit de la femme un de ses sujets de représentation favoris. À Sienne. Prenant d'une certaine façon le relais de Florence, Sienne devient au XVe siècle un foyer artistique de premier ordre. Elle garde néanmoins un style propre avec ses fonds dorés et ses corps allongés. L'école siennoise compte plusieurs représentants illustres. Andrea Mantegna, grand théoricien de la perspective, introduit un nouveau type de composition fondée sur les diagonales. Adepte des scènes religieuses, il est l'auteur d'une série de toiles consacrées au triomphe de César en 1489. Son chef-d'œuvre reste un ensemble de fresques réalisées pour la Camera degli Sposi du palais ducal de Mantoue, avec lesquelles il pose les bases de la peinture scénographique. Pisanello, qui se fit remarquer par son goût pour les descriptions minutieuses, son style précieux et élégant, est l'auteur d'un grand nombre de dessins pour des médaillons destinés aux cours de Naples, Vérone et Milan. Ainsi, le portrait d'une princesse de la maison d'Este peint en 1443 portrait de profil d'une jeune femme se détachant sur un fond floral. Il restitue par ailleurs avec soin la nature dans ses moindres détails. Son œuvre principale date de 1438, Saint-Georges délivrant la princesse Trébizonde. À Venise. La République de Venise constitue le troisième grand centre artistique de la Renaissance. La ville a su s'émanciper politiquement de l'Empire byzantin tout en conservant des liens privilégiés par le commerce avec l'Orient. Elle garde néanmoins une forte tradition gothique, teintée d'originalité locale. Précurseur de l'école vénitienne, Giovanni Bellini marque une rupture très nette avec le style gothique par sa volonté d'effacer les différences entre monde sacré et monde profane et son attachement à une rigueur géométrique. Il apprend le métier de peintre dans l'atelier paternel. Ses premiers travaux sont de petits panneaux peints où figure son thème de prédilection, la Vierge à l'enfant. Il travaille tous les thèmes, devenant une source d'inspiration pour les autres peintres. Le goût de la nature, celui des formes épanouies, l'expression du sentiment. Parmi ses œuvres notables, la Résurrection du Christ, peint entre 1475 et 1479, le Doge Leonardo Loredano en 1501 et la Femme à la toilette en 1515.